Radio Spirale.
Monde contemporain présente aujourd'hui une conférence de Mathieu Arsenault portant sur le déclin de la littérature. Le sujet est vaste et truffé d'écueils, mais Arsenault a choisi de l'approcher à travers son projet actuel de fiction portant sur la question. Il présente ici les différents moments de sa recherche et de sa réflexion.
Merci de m'avoir invité dans ton cours. En fait, pour faire un petit résumé de comment est-ce que j'en suis venu à cette conférence, c'est Martine Emmanuel m'a approché au départ pour que j'aille parler des questions de filiation en littérature québécoise. Puis à mesure qu'elle me parlait de son projet de recherche puis de son projet de séminaire, je me suis rendu compte que c'était exactement, ben à peu de choses près, vraiment dans le ton du projet de livre sur lequel je suis en train de travailler. Fait que ce que je lui ai proposé, c'est de venir, au lieu de préparer une conférence, c'est de venir présenter mon projet, le projet sur lequel je suis en train de travailler. Puis ce projet-là est loin d'être terminé. Ça fait quand même peut-être 5 ans que je travaille dessus. Puis j'en suis peut-être au tiers ou à moitié. Je sais pas. J'ai beaucoup de difficultés à savoir quand est-ce que j'ai terminé un livre. Mais l'occasion était trop belle de venir vous en parler. Et puis comme mon projet est encore en train d'élaborer, j'aimerais vraiment ça que la discussion puisse m'apporter quelque chose. Donc c'est pas seulement un exposé, mais je vais vous voler vos idées. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais commencer par vous lire quelques extraits, puis ensuite je vais vous exposer plus en détail ce sur quoi ce sur quoi je travaille, les questions que je me pose, puis les questions que ce projet-là me pose à moi-même, parce qu'il y a une espèce de ça me place dans des postures qui viennent me chercher en tant que participant à la littérature. À la littérature actuelle. Puis, genre, j'espère que vous ne serez pas complètement désintéressés une fois que je vous aurai lu les extraits. Je vous en conjure, soyez indulgents. Il y a peu d'extraits qui sont terminés, donc c'est un projet à l'état de... C'est encore une ébauche. Mais pour vous situer, mon projet de livre, c'est en gros une fille dans la vingtaine qui essaie d'écrire quelque chose, puis à travers son impuissance à écrire, il y a tout cette espèce de poids de l'actuel, du contemporain littéraire qui lui revient dessus, puis c'est une occasion pour moi beaucoup plus que de me livrer à une vague réflexion sur la page blanche, une espèce de moyen d'essayer de trouver quelque chose, de réfléchir à mon époque à travers de ça. Fait que je vais vous lire 4, 5, 6 extraits, là. J'espère que ça sera pas trop long. OK, l'épreuve uniforme de français. La nuit remue, je tape dessus, je snooze, je lis le dernier livre du snooze de la vie culturelle des 60 dernières années. Ma pauvre fille, j'aurais voulu être ce glorieux livre de poche qu'on traîne partout parce que la vie est poche et qu'on traîne dedans partout. Mais tout ce à quoi un auteur peut aspirer de grand dans cette réalité, c'est de devenir un sujet de dissertation qui va t'apprendre à toi, les jeunes, à faire pas de faute pour pouvoir écrire une lettre de motivation, pour pouvoir avoir une job que tu vas trouver moyen, mais au moins la paye va être bonne. Ça va faire changement de tourner en rond dans ton salon avec ta bibliothèque d'un seul livre. Je suis monté dessus, puis je me suis jeté en bas. Je me suis même pas tué, je me suis même pas cassé rien, je me suis même pas fait mal. Et maintenant, je reste gêné sur le plancher à me demander ce que j'ai bien pu calissé depuis la nuit des temps dans un premier lieu, dans un deuxième lieu. Dans une demi-heure, il faut tout copier au propre, cette sotte dissertation, les mains dans la face et les poches vides de ces livres d'avenir, de cette belle poésie qui voudrait que je me taise. Mais moi, connasse, mais moi, poète, dans l'âme, je continue à écrire, je continue à aimer, je continue à fendre les flots et battre la campagne. Et j'espère ton regard sur ma page, j'espère ton crayon sur ma feuille, j'espère ta réponse à cette question qui m'obsède. Doit-on voir dans ce texte une défense ou une condamnation de la poésie? Vous éthérez vos raisonnements en vous appuyant sur des citations tirées du texte et vous répondrez dans mes bras comme si nous étions des amants, mais nous trouverons ça bizarre parce que pour vous, c'est juste un maudit examen de cul stressant comme tout pour vous, pendant que moi, je prendrai ça pour du connecté avec les jeunes et de l'amour sincère qui n'existe pas au sous-critère 2 du critère 3. Wikipédia. Cet après-midi, j'ai rien que le goût de passer mon doigt le long de la barre de défilement de Wikipédia et plaisante aphasie, comment peut-on écrire une seule ligne quand le plus petit fin détail de la dernière famille, du dernier ordre, de la dernière sous-classe, de la dernière classe, du dernier sous-embranchement, du dernier embranchement, du dernier règne nous passionne, nous excite, nous échauffe, nous brûle et nous étouffe la minute d'encouragement à lire quelque chose de littéraire. Je voudrais lire des phrases compliquées, je voudrais me perdre la tête dans des constructions insensées d'équilibre de ce qui se conçoit bien. C'est non tordu, mais bougrement intelligent. Mais les gens qui auraient pu avoir du talent sont partis depuis longtemps dans le monde de la publicité et tout ce monde qui avait quelque chose à raconter est allé se pendre. Ils ont mis quelqu'un au monde qui a mieux passé ses journées sur les sites vidéo de Débarque en Bessic et sur Wikipédia, Mon beau souci, la saison 4 de How I Met Your Mother, Les particules neutrino, Nietzsche ou Lou Andrea Salomé. On a mis au monde ce calme et plaisant réservoir de savoir, cette lisse couverture du tout dit. Il y a tout à lire, tout à comprendre, tout à avaler. Qu'est-ce alors qu'on s'en fout du dernier témoignage humain, du dernier récit de tomber en amour, de la dernière ligne passée à décrire cette journée parfaite à la terrasse d'un café où j'ai eu soudainement l'impression d'être cette dernière personne au monde à regarder les gens qui passent et mon petit doigt traînant paresseusement sur le touchpad de mon portable, rêvassant à 13 fois où je me suis blotti la tête contre le torse de mon meilleur ami en pensant que cette fois-ci, ce serait pour vrai, qu'on allait finir ensemble et mes deux jambes contre les siennes et sa paresse contre la mienne. Et la paresse ne doit pas être confondue avec l'otium que les Romains opposaient au négocium, car la paresse consiste à ne pas avoir envie de faire ce qu'il serait en principe nécessaire, et la nécessité désigne l'impossibilité pour une chose d'être autre chose qu'elle n'est, et le concept d'être désigne en général ce que nous ressentons exister d'une manière ou d'une autre dans la perception et la soucoupe des gens. Les gens, l'air contre mon visage, j'en perçois en crise des affaires, mais qui possède encore la patience d'écouter ce que je pourrais vouloir dire sur la paresse et la patience quand il n'y a qu'à vérifier dans le dictionnaire que la patience est l'aptitude de quelqu'un à se maîtriser, mais cette maîtrise, je l'ai abandonnée pour devenir cette plumitive que j'ai tant désiré être, mais qui s'est effondrée pour n'être plus que cette geek parfaite et comblée. Est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que je suis en train d'écrire? Est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que je suis en train d'avion, d'auto, d'à pied? Et si oui, pourquoi est-ce que j'arrive à rien? Est-ce que j'arrive pas à avancer? Pourquoi tout ce que j'ai à dire reste-t-il sur le bout de mes lèvres, au bout de mes doigts? Je touche pourtant cette phrase pensée dans cette tête appuyée, dans ces mains immobiles, dans l'air d'après-midi, dans l'air qu'on respire, dans l'air que ce n'est pas encore aujourd'hui que la littérature va s'enrichir d'un chef-d'œuvre intemporel. Péché mignon. Place à la magie, place au mystère objectif, l'huile d'olive concrète, première pression à froid, 10 ml de vinaigre balsamique, déglacé le foie gras, assoiffé d'étrangères à tout, du focaccia, bok choy, m'acheter une mandoline, me découper les doigts en julienne et crier au four à 350 degrés pendant une heure et demie, debout et inutile dans cette cuisine, il n'y a qu'avec un livre de recettes que les garçons me trouvent coquette, foquette, pas dangereuse à croquer, mais désolée, je sais seulement cuire la main au feu, fou cette grande main qui me pèse et me flatte la tête quand je m'aperçois à la librairie que la section plaisir de la table a avalé la section poésie quand tu nous tiens, poésie quand tu ne nous veux pas, nous envoie chier en pousser une petite chantée en folie dans la librairie, les doigts poésie quand tu nous lis, quand tu nous tords, nous tues, nous ninja pirates zombies, le nez sur l'écran, le doigt sur le i, une souris, une araignée, un bras, un pied ensanglanté, une lampe de poche dans la face à raconter une histoire avec un punch sur le i, les lumières s'allument, je sauvegarde mon texte, je prends une marche, je marche, je retrouve la bibliothèque, je retrouve le temps, je retrouve apaisant de chercher un livre et d'arrêter de penser à tous ces épicuriens de la crise du foie qui remplissent leurs valises de char, de sacs pleins de fleurs, de sel, de piments d'Espelette, de 7 millions de figurines à collectionner, de cette société d'épiciers qui n'a d'autre activité que celle du strict nécessaire. À jamais je ne pourrai gagner ma vie car ma vie est consacrée à retranscrire les doigts en sang inutilement comme une feuille, une folle. L'âge de la parole en plein âge de la papille, c'est ferme ta gueule, assaisonnée et parsemée de pecorino. Et bon appétit, on vous conseille l'accord mais vin, mais ça ne va pas bien parce que je me marie avec rien. Cœur de pirate. Moi là, moi, moi, moi là, moi, moi, moi là, moi, 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 je m'enfarge tout le temps dans mon petit moi et je finis par patauger dans le je me moi des poèmes qui vont nulle part, des belles poésies de regarde comment je suis bonne, tue-toi le je me moi de crasse de cette petite étudiante parfaite au cégep en arts et lettres que j'étais et qui passait ses nuits à mourir et à renaître, à refaire le monde en écrivant des choses infectes. Mais toutes ces années ont finalement été perdues à essayer de faire quelque chose qui valait rien à long terme, c'est exact. Il vaudrait mieux que nous nous eussions tués, que nous nous fûmes tués, que nous nous fussions faites mourir à petit four. Il vaudrait mieux que je me fasse petite, petite et que par la magie du destin, je me retrouve folle et fourrée comme Camille Claudel, battue par la vitre, la vitrine, le morceau de vitre sur la peau au lieu de vivre jour après jour dans le sentiment d'échec, de ne pas arriver à mal bien parler, l'échec de n'arriver à rien, de plus dit, de moins dit, de toujours et encore m'enfarger. Oui, veux-tu que je te dise, veux-tu que je te dise, oui, veux-tu que je te dise, veux-tu que je te dise, veux-tu que je te dise, oui, veux-tu que je te dise quelque chose? Non, personne veut que je te dise, personne veut que personne veut que personne parle. Ce serait mieux que je chante, ce serait mieux que je me taise en me tuant, en chantant des belles choses de la vie, des belles choses propres, comme cette fille, cette cégepienne parfaite que j'étais à 18 ans, infourée, insucée, inécrite, inérudite, irrédigée. Je jouais du piano, j'écrivais des chansons de tu m'aimes, puis on est heureux de se redécouvrir à chaque matin quand un rayon de soleil éclaire notre visage. Et sur la scène de cégep en spectacle, je faisais des petites faces de minois cute, de donnez-moi des prix, jugez-moi au concours du festival en chanson de petite fourmoi grande B, vallée de la mort. De personne lit les couvertures de livres et le soleil est intraitable. Le soleil entre par la fenêtre, le soleil tape, le soleil fait fondre les disques, les entrevues radio et les tournées de promo et le visage des cégepiennes de 18 ans qu'on redécouvre à chaque matin que sans gêne, tu me défonces et tu me comprends. Pas la vanité prude de ma tête éclatée sur ce clavier, sans rien arriver à taper qui puisse intéresser personne sous le soleil. Bon, je vais en lire un petit dernier. Shawin de Fred Fortin. S'il y avait encore de la musique d'ascenseur, je pense que je me jetterais dans la cage d'ascenseur. Mais maintenant que la vie est belle et parfaite, je me jette dans la cage du beau et du parfait et me péter la gueule encore une fois. Pour un gars qui en valait même pas la peine, à chaque fois je donne tout, à chaque fois il ne me reste rien, seulement des histoires qui finissent mal, aussi mal qu'elles ont commencé. Et me retrouver seul dans mon lit, la porte est fermée, j'arrive à peine à m'endormir, et les nuits d'insomnie deviennent des jours et des semaines d'insomnie, et je ne veux plus que me lancer dans la course pour devenir une vieille folle avec des chats dans le fond d'un rang au lac Saint-Jean. Oui, une vieille folle désorientée et pure, et contempler l'éternité est la seule chose qui mérite d'être dite, et être vraiment laide aussi, et puer et dire « Proust, Proust, Nietzsche », dès qu'on m'adresse la parole, alors seulement j'aurai les yeux vissés au firmament sur mon épaule, la main rugueuse d'un garçon qui aura l'air de Fred Fortin, la fille morte et oubliée, que la poésie a chu, que la littérature a laide, que le roman a plate, que les peintes après peintes du cheval blanc ont rendu toute mélancolique de cet avenir radieux où je publierai mon livre et là, fuck que le monde va s'arrêter de vivre pour le lire, fuck que l'Internet va péter en mille miettes, puis fuck que les libraires vont refaire de l'argent parce que tout le monde va le vouloir, mon livre, et les libraires vont tout le temps tout vouloir me sortir au restaurant, puis m'amener danser, puis me fourrer, ah, que l'éternité va être hot en hostie quand la mer va s'en être allée avec le soleil au fin fond des manuscrits archivés sur mes clés USB rangées dans des tiroirs de ces commodes extravagantes sur lesquelles on me basculera nu et passionné. Je serai enfin laide et je puerai et je dirai des saletés et frenchée et spognacée et venir et enfin dormir, dormir, dormir. Bon. Alors. ce que je vais faire pour exposer le projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est vous exposer comme les moments d'élaboration, les espèces de nombreuses crises que j'ai traversées qui m'ont mené à travailler là-dessus. Et puis, pour que vous puissiez bien suivre cette structure, est en trois moments. J'ai isolé trois moments d'élaboration de mon projet. Le premier moment que j'ai décidé d'appeler l'enthousiasme d'un sujet positif m'est venu comme à chaque fois, j'ai déjà publié deux livres, puis à chaque fois que je commence un livre, je suis dans la recherche d'un enthousiasme joyeux parce que je me dis « Ah, mon dernier livre était tellement pessimiste puis tellement dramatique, ce que je veux faire maintenant, je veux juste faire un livre joyeux puis... » puis qui va me remplir de bonheur, puis remplir les autres de bonheur, puis ce moment, puis là à ce moment-là, je me mets à la recherche de ce qui pourrait me remplir d'enthousiasme. Puis j'étais en train de terminer l'album de Finissant quand je me suis dit ah voilà, j'ai peut-être trouvé un lieu. J'allais et je vais encore abondamment dans les soirées des soirées de poésie, les lectures publiques qui sont beaucoup plus nombreuses que y était quand j'étais au quand j'étais dans les années 90, où c'était assez morose. Mais maintenant, il y a vraiment une espèce de foisonnement. Je vous conseille tous d'y aller. C'est moins ennuyeux que c'était depuis que la scène slam a donné un coup de pied dans le cul à ces poètes. Il y a vraiment une espèce de dynamique qui est vraiment bien. Puis, sur cette scène de poésie-là, je me suis fait beaucoup d'amis qui étaient, à l'époque où j'ai commencé mon projet, à peu près tous dans la vingtaine, qui, pour la plupart, n'avaient pas encore publié. Puis ce qui m'a intéressé dans ce milieu-là comme sujet, c'est que l'optimisme régnait. Puis la gratuité aussi, je trouve que c'est un milieu qui, même encore aujourd'hui, est rempli de rempli d'un optimisme qui est vraiment plein de qui est très joyeux. Et puis ces poètes-là, quoi qu'on en dise, moi je trouve qu'ils ont quelque chose des véritables héritiers de la littérature, mais peut-être par la négative, parce que quand on y pense, ces gens-là qui font de la poésie, ils écrivent pas pour gagner leur vie, ils écrivent pas pour en faire une profession. Ils participent au marché du livre quand ils sont publiés d'une manière extrêmement marginale. Les tirages sont tellement minuscules que ça peut même pas être une idée que de vouloir gagner sa vie avec ça. Puis même le désir qu'on pourrait avoir d'être vu en montant sur scène, ce que eux font le plus souvent gratuitement, il pourrait le faire, il pourrait être beaucoup comblé beaucoup plus facilement s'il faisait de la musique ou s'il faisait autre chose. Fait que ce qui m'a intéressé dans ce milieu-là de la poésie, c'était il m'apparaissait, c'est certain que c'est comme une espèce de fantasme et d'imaginaire, mais il m'apparaissait qu'il y avait chez eux quelque chose qui transparaissait de l'espoir de s'inscrire, un espoir qui est presque pur et honnête de s'inscrire dans une tradition littéraire qui représente quelque chose pour eux. C'est sûr que quand on parle avec eux autres, à un moment donné, ça... il y a toutes sortes de gens, ont toutes sortes de motivations. Mais il reste que globalement, oui, j'aime beaucoup mieux la compagnie des poètes que la compagnie des romanciers qui ont une espèce... La différence entre la vie puis la vie qu'ils mènent puis ce qu'ils écrivent est beaucoup moins institutionnalisé que chez les romanciers. Les romanciers parlent souvent de leur travail d'écrivain comme un travail ou comme d'une profession. Puis les relations sont très... sont plus normées qu'en poésie, comme constamment des gens pètent des crises ou se chicanent sans penser à l'avenir. Mais il y a quelque chose de charmant là-dedans. Il y a aussi j'ai noué beaucoup plus d'amitié avec les poètes qu'avec les romanciers au fil du temps. Puis... l'idée de faire une espèce de portrait optimiste et positif et joyeux de ce milieu-là, je ne trouvais pas ça littérairement intéressant. Ce qui fait que je me suis concentré sur pas ces poètes qu'on entend lire souvent puis qui sont intéressants puis qui ont des œuvres cohérentes, mais ceux qui viennent pas très souvent puis qui sont dans les micros ouverts puis c'est un peu laborieux puis qui sont finalement pas très bons. Mais je voulais pas comme en faire une parodie, mais je me suis dit, ah voilà un matériau qui est vraiment intéressant, la poésie amateur, celle qui rime, celle qui est pleine de phrases mal foutues puis de clichés. J'ai passé beaucoup de temps aussi dans le milieu du slam, puis les micros ouverts de slam, c'était un peu laborieux des fois. Mais comme matériau, je trouvais que c'était un matériau littéraire qui était vraiment intéressant dans Album de Finissant, mon premier livre. Je m'intéressais aux gens du secondaire, ceux qui sont jamais à bonne place, puis qui échouent, puis qui savent pas écrire comme du monde. Puis il y a quelque chose de très charmant quand on se met à leur place. Puis aussi comme syntaxiquement, la phrase elle va dans toutes les directions. Puis c'est ce qui m'intéressait au départ, c'était ça aussi, cette la mauvaise poésie comme matériau. Puis aussi, les espèces de clichés qui sont très le fun à travailler. L'auteur de génie, l'inspiration, le poète maudit. Comme vous avez pu voir, l'épanchement du moi ou l'idée que notre œuvre va survivre à notre mort. C'était des idées que je trouvais intéressantes à travailler. Puis... parallèlement à ça, à force, puisque je m'intéressais aux auteurs non publiés, je me suis mis aussi à m'intéresser à cette idée-là qu'on entend souvent qu'il existe peut-être plus d'auteurs plus de poètes que de lecteurs de poésie. Puis on entend souvent parler du nombre de manuscrits refusés. Il y a des fois, on dit qu'annuellement, un éditeur moyen peut recevoir 200 à 300 manuscrits qui refusent à peu près tout. Puis, il y a seulement un petit pourcentage de ça, évidemment, qui est publié. Puis, je trouvais que c'était un... il y avait quelque chose d'un... Je me suis posé la question de... Est-ce qu'il y a une espèce de... Est-ce que l'imaginaire de la littérature contemporaine... est-ce que c'est important, ça, le fait qu'il y aurait plus de poètes que de lecteurs, qu'il y aurait plus un désir d'écrire qu'un désir de lire? Est-ce que c'est quelque chose qui est significatif pour la littérature contemporaine? Je rappelle qu'on est encore dans le moment optimiste de ma démarche. Puis parce que finalement, je me disais, s'il y a quand même tous ces gens-là qui voudraient écrire, il y a quand même quelque chose qui se maintient d'un fantasme de la littérature. Puis... Des gens qui veulent écrire, ben peut-être qu'il y en aura toujours, tout le monde constate avec la morosité générale dans laquelle la littérature québécoise, puis peut-être probablement mondiale, se trouve, quand la critique disparaît des journaux, quand les ventes en librairie diminuent, quand le financement public des arts et de la littérature diminue, je me disais, mais s'il y a des gens qui ont le fantasme d'écrire, t'sais, eux autres, au moins, ils sont pas tuables, peut-être qu'ils sont pas tuables. Bon, mais tout ça allait bon train. Je trouvais que c'était la partie optimiste a eu... c'est terminé le jour où j'ai fait une petite recherche auprès de quelques éditeurs puis de lecteurs de maisons d'édition que je connaissais. Puis là, ce que je vais dire, c'est absolument pas quelque chose d'objectif ou de fondé ou de qui a une valeur sociologique, parce que j'ai pas fait ça dans l'esprit d'une méthodologie, avec une méthodologie ou dans l'esprit d'une recherche, mais les quelques commentaires que j'ai eus d'éditeurs et de lecteurs de maison m'ont dit, de toute façon, l'essentiel des manuscrits qu'on refuse, c'est des gens qui font des autobiographies, qui veulent raconter leur vie. C'est souvent des gens qui sont à la retraite puis qui essaient de transmettre quelque chose parce qu'ils n'ont pas pu transmettre à leurs petits-enfants ou à leur entourage l'ensemble de la mémoire ou l'ensemble de l'expérience qu'ils ont accumulé au fil de leur vie. Puis les gens me disaient, c'est des manuscrits, là, franchement, littérairement, c'est vraiment pas très intéressant. Puis selon eux, ce qu'ils disaient, c'est que de tous ces manuscrits-là, il y en avait 10% peut-être qui avaient une prétention littéraire. Puis dans que cette prétention-là, ces 10%-là, ils disaient, tôt ou tard, ils finissent par trouver un écho quelque part, que ce soit dans les revues ou dans le monde de l'édition à un moment ou à un autre. Fait que moi, j'étais parti avec cette idée-là qu'il y avait une espèce de fantasme pour la littérature. Je me retrouvais vraiment dévasté parce que... j'avais cette idée-là qu'il y avait une espèce de foisonnement malgré toutes les difficultés de la littérature. Il y avait une espèce de foisonnement dans le désir ou dans le fantasme d'écrire, mais finalement, je me rendais compte dans ce choc-là qui, je le rappelle, et sans aucune espèce de prétention objective, je me rendais compte que c'était peut-être qu'il y avait finalement seulement une espèce d'océan d'autobiographes amateurs qui ont peu ou à peu près pas rapport avec la littérature, mais beaucoup plus avec le livre. Et puis, je me rendais compte que la littérature québécoise tenait peut-être à beaucoup moins que ce que j'avais imaginé. Puis le problème qui se posait à moi, c'est où est-ce qu'on peut encore trouver le désir pour la littérature? Moi, je le rappelle, là, je suis vraiment dans une espèce de c'est aucunement scientifique, c'était dans l'espèce sur le moment, mais ça l'a informé mon projet de livre. Puis ça m'a amené à cette question de quoi est-ce à cette question qui est justement pas une question de projet de recherche ou pas une question de d'essai ou de c'est la question c'est une question qui pour moi est plus littéraire, plus esthétique. C'est de quoi aurait l'air un livre qui serait écrit par quelqu'un qui embrasserait sans faux espoir l'idée que la littérature est terminée. Puis je me suis demandé aussi, mais comment est-ce qu'on peut continuer à écrire si on retire une à une toutes les petites satisfactions personnelles, tous les petits succès d'estime à laquelle la plupart des auteurs que je connais s'accrochent au jour le jour aujourd'hui. Et puis en même temps ouais, c'est ça, mais ce que je voulais, mon intérêt, c'était pas de rajouter à la déprime collective du milieu littéraire, puis pas non plus de chercher une solution. J'espère que vous allez comprendre où est-ce que, quand je vais être rendu, où est-ce que je m'en allais. Parce que la question, c'était pas non plus de prétendre à l'objectivité. En fait, c'est plutôt que dans l'esthétique de ma démarche, j'aime travailler le malaise parce que pour moi, le malaise me permet de me mettre sur une espèce de corde raide syntaxique qui me permet d'aller chercher comme... d'aller chercher des une espèce de un style ou une posture qui est très instable puis qui permet d'aller chercher une espèce d'intensité que j'aurais pas si je restais comme au quotidien, à mon quotidien objectif, même si c'était mon quotidien d'auteur et de participant au milieu littéraire. Fait que ce que c'est ça, je cherche pas à travailler une organisation des idées, je cherche pas à opérer un constat, je cherche plutôt à aller chercher quelque chose des affects propres à une posture de pensée qui appartient à notre époque, puis qui nous appartient dans nos moments de grande détresse. Puis dans ce deuxième moment que j'ai appelé l'élégie, le désespoir sombre, la même vieille shit qu'on retrouve dans l'album de Finissant et Vidi. ça m'a amené à lire plusieurs des essais qui, je crois, sont dans la bibliographie, entre autres l'Otimi Raksimov en lit. C'est pas super intéressant, mais j'ai lu Raksimov, William Marx, Richard Millet, Alain Nadeau, qui sont tous dans dans une espèce d'élégie essayistique sur la fin de la littérature ou la crise dans laquelle la littérature se trouve. Et puis, au premier abord, ces livres-là, ces essais-là m'ont beaucoup... m'ont beaucoup intéressé parce que le sujet était... J'étais vraiment dans ce sujet-là. Mais j'ai vite été assez... un peu... Ben, pas assez, mais un peu déçu parce que à mon sens, une grande partie de ces essais-là essaie de mettre des grands efforts pour démontrer que la littérature est plus ce qu'elle était. Mais en même temps, on trouve une espèce de déconnexion d'avec... aucune forme d'actualité littéraire qui serait pas comme détestable comme celle comme le portrait qu'ils font de l'industrie culturelle médiatique, du système des rentrées littéraires puis des prix officiels. Mais j'ai considéré comme essai, il me semble que ça avait ses limites, puis c'était aussi déprimant que ce que j'étais en train d'essayer de faire. Mais le portrait de notre époque dans ces livres-là est inévitablement, il me semble, celui d'une littérature qui est plus ou moins prise en otage par le marché du livre, prise dans le cycle normatif des rentrées littéraires, puis des prix, puis... Je sais pas si vous trouvez ça, mais moi, j'ai l'impression que la plupart des essais français que je lis depuis 10 ans sont dans une espèce de grève perpétuelle de la pensée où tout ce qui arrive à ressortir, c'est une espèce d'élégie cynique post-baudrillardienne. Puis, je sais pas, on dirait que je suis fatigué de ça aussi. Mais pour revenir à mon projet, puisque j'étais là-dedans, je me suis mis à faire une espèce de petit... je me suis mis à travailler sur une espèce de tombeau de la littérature québécoise à ce moment-là. Mais, le lieu que j'avais trouvé... En fait, au départ, le lieu que j'avais trouvé, quand je travaillais sur la première partie, c'était une fille qui travaillait dans un café. Puis je me suis vite rendu compte que moi, je travaille jamais dans des cafés. Puis ça m'intéresse vraiment comme... Je bois même pas de café, donc j'avais de la misère à me documenter sur ce qui se passe au quotidien quand on va écrire dans un café. C'est une posture un peu cliché, mais en tout cas, j'ai abandonné ça. Mais dans la deuxième partie, je me suis dit, ah, cette fille-là va être dans les espaces commerciaux du livre, dans les salons du livre, dans les librairies, dans les remises de prix officielles. Puis je me suis mis à faire exactement ça. Je me suis mis à faire des petits terrains ethnographiques qui étaient fort amusants et fort déprimants. Aller au salon du livre, quand on est un lecteur, c'est déjà difficile, mais quand on est un auteur, c'est catastrophique. Là. Il y a des files, il y a 300 personnes qui attendent pour une vedette de la télé qui écrit un livre sans aucun intérêt. Puis là, tu passes à côté de paquets d'auteurs que tu connais ou que tu connais pas, mais que personne va voir. Puis finalement, tu fais 3 séances de signature, puis personne n'est venu te demander une dédicace, sinon ta coloc ou ton ami. Bon, je suis dans le vécu, là. Mais c'est ce que je faisais. Quand je faisais à Vue d'ici, j'ai fait la même chose. Ça portait sur la banlieue, puis j'étais allé me promener en banlieue pour absolument rien. J'allais dans les Walmart sans rien acheter pour avoir l'espèce d'expérience anthropologique de ce que c'est être complètement étranger à un monde... être soudainement en dehors de ce monde-là qui est le quotidien pour tant de gens. C'était vraiment... vous essayerez ça, aller magasiner dans un Walmart sans avoir rien à acheter, c'est une expérience. Puis aller dans un salon du livre, c'en est toute une aussi. Mais c'est ça, j'étais toujours à ce moment-là dans la perspective de faire un tombeau de la littérature québécoise. Puis dans cette espèce de posture de contemplation de l'actualité dans laquelle je me suis retrouvé, je me suis retrouvé dans une espèce d'imaginaire de tradition mort-vivante. Je pourrais lire un extrait. J'ai un extrait qui parle de mort-vivant. qui n'a pas de nom encore, puis qui restera peut-être pas dans le livre final. Mais... qui s'appelle vraiment un texte avec des zombies dedans. On n'avait plus rien à se dire des livres dont on se crisse, du peuple oublié, des je me souviens, Marie, de pas grand-chose et de rien avant le stéréo, mes parents ont eu la mémoire courte des films en noir et blanc et pour moi ce sera le stéréo, lire un roman, pas d'image, pas d'intrigue, pas de personnage, pas de début, pas de fin, pas de punch, pas de morale, pas de réplique drôle, pas de moment émouvant, pas de détails, pas de belles phrases, pas de belles filles, pas de psychologie, pas de vedette, pas de singes limitrophes et de mélodies faciles et de temps qui passe vite et de rien ne reste et quelque chose de froid dans mon dos. Je voudrais croire, oh oui, tellement que le jour de la vengeance des zombies est arrivé, ils vont gagner sur les vivants parce qu'on n'a pas de fusil, mais il y aura juste à les ignorer pour qu'ils tombent en miettes, les pages pourrissent, les reliures se défont à l'humidité. Un jour, on coupe les fonds de conservation des collections et il n'y a rien à faire avec les bibliothèques de grand-mère à sa mort qu'à faire des grands sacs à recycler pour faire de l'engrais et les rêves d'écrivaine d'une ado spéciale et intelligente et mésadaptée avec des élastiques dans les cheveux qui passait ses journées à lire des Mademoiselles C n'a plus rien à faire de cette vie-ci, sinon se vautrer dans le vice de fourrer dans Wikipédia et les sites spécialisés, faire des centaines de recherches sur l'histoire, les sciences et la culture pour essayer de comprendre ce qui a bien pu lui arriver pour que la poésie sacque son camp avant même qu'elle ait eu le temps de la rencontrer, lui mettre la main sur l'épaule et... Qu'est-ce qu'on s'en fout des énoncés fragiles, d'asseoir la beauté sur ses genoux et de l'injurier, ou je sais pas quelle niaiserie, quand on doit devenir cette grande fille tough dans un monde délabré pour protéger de la horde des morts vivants ce qui reste de cette petite fille mordue de littérature jeunesse qui avait des élastiques dans les cheveux. tradition de mort vivant, donc. C'est-à-dire une tradition qui, dans ce moment pessimiste de tombeau de la littérature québécoise, apparaît comme transmise sous forme uniquement de lecture obligatoire puis de réactualisation plus ou moins sentencieuse. C'est-à-dire aussi une transmission où l'individu a cédé une grande part de sa responsabilité de transmetteur, de passeur, à une institution qui en organise l'échange puis l'organisation. C'est-à-dire aussi qu'une fois lu en classe, au cégep ou au secondaire, les textes de Nelly Gant, Gabriel Leroy, Claude-Henri Grignon, demeurent la plupart du temps pas dans la vie des gens qui les ont lus. Ils disparaissent dans les notes de cours ou au mieux demeurent comme un vague souvenir de cégep, aussi déconnecté de l'expérience du monde que les formules de calcul différentiel puis intégral. Mais les auteurs de l'histoire littéraire sont pourtant pas oubliés, apparaissent plutôt comme des espèces de fantômes d'une presque tradition, d'une tradition qui peut-être définitivement devenue marginale pour la culture québécoise, puis de cette culture-là qui se réinvente pourtant à chaque génération. Voilà pour le moment déprimant, le troisième moment que j'ai intitulé « Ce à quoi doit se mesurer la littérature aujourd'hui ». Mais oui, tout ça était vraiment complètement déprimant. Puis pour résumer, j'étais vraiment parti d'une espèce de posture qui était très optimiste avec les auteurs qui faisaient des lectures publiques, puis qui avaient que rien pouvait arrêter de faire des lectures publiques. Puis par une espèce de mouvement dialectique, j'étais rendu complètement à la négative du pessimisme intégral où il n'y a à peu près rien à espérer. Puis fait que d'un côté, on a des résistants qui choisissent peut-être de demeurer aveugles ou qui sont pour qui c'est pas un problème ces questions-là de la survivance ou de la littérature québécoise en ruine. Puis de l'autre côté, on a quand on choisit d'éclairer le milieu littéraire dans cette espèce de lumière la plus crue possible, tout ce qui reste, c'est une espèce de désespoir contre lequel il faut lutter. Je sais que la solution la plus simple, ça serait vraiment de dire « Ah oui, mais d'un côté, j'ai trouvé une espèce de point médian, puis j'ai trouvé « Ah, c'est pas si pire que ça, d'un côté comme de l'autre. » Mais moi, ça m'intéresse pas. ça m'intéresse pas parce que je fais pas de moralisme, j'essaye pas de trouver la meilleure vie, j'essaie pas de trouver comment survivre à ce milieu-là. Ce qui m'intéresse, c'est, comme je l'ai dit tantôt, les affects les plus intenses d'un côté comme de l'autre. Et puis, dans ma démarche, j'en étais finalement arrivé, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Vudici, mais le Vudici, ça arrive, c'est un petit peu la position de Vudici, c'est un point de vue qui est très, très désespéré, pas cynique, qui essaie de traverser le cynisme, mais qui en arrive à une espèce d'aporie de continuer de vivre quand la misère du monde nous est offerte à chaque soir, dans l'actualité, puis quand on est en banlieue, on est complètement déconnecté, mais on n'a pas le choix non plus d'assister à ça et d'être en relation avec ça. Si j'en étais resté là, finalement, et j'espère que j'en resterai pas là, je me retrouverais à refaire peut-être vu d'ici, mais appliqué au monde littéraire, c'est-à-dire de faire une espèce de portrait de milieu, puis... Je me suis mis à partir de là à essayer de trouver un point de vue qui me permettrait de pousser plus loin ma démarche esthétique, puis pousser aussi me motiver à faire autre chose que vu d'ici deux les années littéraires. Et puis je me suis mis à m'intéresser à la question de la lecture, pas juste la question de la littérature, mais la question de la lecture, parce que on s'en rend peut-être difficilement compte aujourd'hui, mais au quotidien, mais depuis peut-être 10 ou 15 ans, on a radicalement changé de paradigme par rapport en ce qui concerne le rapport à la lecture. Les 50 dernières années, c'est-à-dire des années 50 aux années 2000, ont été des années marquées par l'audiovisuel. L'audiovisuel a connu autant le cinéma, la télé, la radio, la musique ont connu une espèce d'explosion extrêmement créative, mais qui n'avait pas du tout rapport à la lecture. Puis aujourd'hui, avec les technologies de l'information puis de la communication, on se retrouve, je ne sais pas pour si c'est le cas de la majorité des gens, mais l'audiovisuel est peut-être en train de quitter la scène, puis on revient à une espèce d'époque de la lecture, où la lecture, qui, je rappelle, n'est pas nécessairement littéraire, mais c'est une époque qui est beaucoup plus fortement marqué par la littérature. Juste pour donner un exemple, c'est un exemple qui sans aucun intérêt parce que tout le monde doit être dans cette situation-là. Mes parents ne sont pas des gens qui lisent beaucoup. Ma mère, elle s'endort tout de suite. Puis mon père lit des romans policiers qui sont écrits comme des scénarios. Puis moi, j'ai passé vraiment mon enfance devant la télé beaucoup plus que devant des livres, même si je lisais beaucoup, mais j'écoutais vraiment plus de télé, d'où vu d'ici. Et puis... jusqu'à l'âge adulte, je me souviens pas d'avoir entretenu une seule correspondance, à part quelques lettres qu'on se mettait dans nos casiers à Saint-Valentin. Mais en date d'aujourd'hui, ma boîte de courriel contient 15 420 messages. Puis ça, c'est seulement depuis 2006, là, parce qu'avant, j'étais pas sur Yahoo Mail. Là, mais... Et puis, j'ai rencontré ma blonde sur Twitter. On se textait comme 50 fois par soir, sans jamais s'être rencontrés. Mais ces expériences-là d'écriture et de lecture, il y a 15 ans, ils étaient impensables. On n'aurait jamais pu imaginer qu'on se retrouverait un jour à lire et à écrire beaucoup plus que faire autre chose. Puis je sais pertinemment que justement, ça, il n'y a pas... Personne n'a des prétentions littéraires dans ces activités-là d'écriture puis de lecture. Mais quand même, on est beaucoup plus proche, par exemple, d'un retour de la rhétorique qui est ancrée dans la littérature, d'une manière de produire des effets avec l'écriture puis un questionnement sur la lecture qu'à l'époque de l'audiovisuel qui était dans une espèce d'espace-temps, de rapport à l'attention complètement différent. Et puis... la chose qui m'intéresse présentement, après, c'est puisque je suis dans ce troisième moment-là de mon projet, la chose qui m'intéresse présentement, c'est que le rapport à la lecture qu'on peut avoir, à la lecture non littéraire, est complètement différent que le rapport que la littérature a pu entretenir à l'audiovisuel, à l'époque de l'audiovisuel, qu'il a toujours regardé de haut parce que c'était tellement étranger, la télévision est tellement étrangère au roman ou à tout ce que la littérature a de littéraire quand on la considère comme à partir de son histoire, que il y a une espèce de rapport de positionnement où la littérature regarde de haut l'audiovisuel. Puis ça peut être condamnable, puis je dis pas que j'ai pas pataugé là-dedans dans vue d'ici, mais maintenant à mon sens, le rapport à la lecture peut être aujourd'hui et possiblement moins conflictuel. C'est-à-dire que dans cette lecture-là non littéraire, il y a quand même la possibilité de trouver un autre rapport au réel, un autre rapport au savoir aussi. Puis je ne sais pas si je suis seul dans cette condition-là, mais quand on en prend un peu l'habitude, la lecture en ligne, elle se passe aisément de vulgarisation, de populisme, de tout l'appareil de séduction que les littéraires ont tant décrié à propos de l'audiovisuel. Je sais pas, moi, je passe mes journées sur Wikipédia, je passe mes journées à lire des trucs du New Yorker, du New York Times, on me renvoie les critiques du Devoir que je lis avidement quand ils sont pas bloqués ou sur Cyberpresse. Mais cette lecture-là, c'est là où j'en suis, cette lecture-là, au milieu de tout un fatras d'idiotie dont j'ai parlé, des vidéos de show, des vidéos de débarque en bicycle, il y a quand même des trucs il y a quand même quelque chose d'un rapport au réel qui nous donne l'impression qu'on peut avoir un rapport au savoir ou un rapport à la totalité de l'écrit, une espèce d'intégralité du savoir humain, puis de tout ce qui était, de tout ce qui... une espèce de somme de l'histoire collective du monde. Puis je sais que j'ai vraiment l'air d'une espèce de techno-prophète, mais au contraire, je trouve pas du tout ça optimiste et positif au sens positiviste, au sens scientifique, mais je trouve que c'est plutôt... Je trouve ça intéressant parce que c'est aussi effrayant, parce que c'est difficile à supporter du point de vue subjectif. Puis je pense que ça rejoint peut-être la question d'écrire dans une tradition littéraire, mais écrire non seulement dans une tradition littéraire, mais devant le spectacle de la totalité de l'écrit qui est disponible presque immédiatement, virtuellement devant nous. Ça, il y a quelque chose d'effrayant, peut-être, et surtout d'écrasant, de lourd. Et puis, c'est à peu près là que j'en suis, que j'en suis dans mes... dans mon questionnement sur la comment faire pour terminer ce livre-là que j'ai commencé. J'en suis rendu à cette espèce de... à considérer comment est-ce qu'on peut continuer, comment est-ce qu'on peut écrire, comment est-ce qu'on peut continuer à écrire devant l'intégralité de l'écrit, devant l'intégralité de tout ce qui s'est écrit. Puis je sais bien que, oui, comme je le répète, la lecture ou l'écriture qui paraissent en ligne ne sont pas immédiatement littéraires, ne sont pas... nécessairement littéraires, n'ont pas du tout un rapport immédiat avec la littérature. Mais je pense malgré tout que ça doit intéresser, ça devrait intéresser, il faudrait que ça intéresse la littérature parce que c'est un rapport à l'expérience qui je trouve, et on le retrouve pas beaucoup dans la manière de faire la poésie ou la manière de faire le roman aujourd'hui. Si la littérature apparaît, pour un peu qu'on soit un peu pessimiste et cynique et déprimé, si la littérature apparaît en ruine aujourd'hui, c'est peut-être oui parce que l'audiovisuel, ces 50 ans d'audiovisuel-là l'ont pratiquement fait disparaître, l'ont relégué à des questions de marché, à des questions de rentrée littéraire, à une industrie. Mais puis si la littérature va aussi mal, peut-être que c'est à cause de l'audiovisuel, mais si la littérature n'arrive pas à se relever, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas encore su prendre acte de l'ensemble de ces nouvelles expériences de lecture-là qui font, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres, qui font peut-être beaucoup plus l'essentiel de mon quotidien que ce que je peux retrouver dans les romans de rentrée littéraire que je peux feuilleter de temps à autre. Et puis, c'est à peu près là que je suis rendu, là, à faire le pont entre l'espèce de portrait de la littérature en ruine puis des espèces de potentialités. Puis j'essaie de faire avec j'essaie de trouver dans ma syntaxe folle, un lien ou un moyen de raccrocher quelque chose comme ça. Et puis, c'est ça, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, il y a 5 ans, cette fille-là dans la vingtaine qui passait ses nuits à lire puis à taper sur son ordinateur, elle lisait puis elle écrivait ce que je présumais être des fictions littéraires, mais 5 ans plus tard, quand je relis ces phrases-là, je me dis, ah, la phrase n'a pas changé, mais je me dis, ah, peut-être que cette fille-là pourrait aussi passer ses nuits à lire puis à taper autre chose que quelque chose de littéraire. Puis je me suis rendu compte de ça très récemment. J'ai jamais su à quoi ça occupait ses nuits, cette fille-là, finalement. Et puis, je pense que ça conclut. Tu fais une heure?
Presque.
Yes! Et puis, on va avoir le temps de discuter.
Je suis très heureuse pour l'instant de discuter. Merci pour cette conférence. Je pense qu'on applaudit ma vie. J'ai tellement de choses à dire. J'ai l'impression que c'est le contrepoint réflexif, créatif, un peu, des discussions qu'on a pu avoir ici, parce qu'on a réfléchi beaucoup justement à cette impasse dans laquelle on se trouve dès qu'on oppose. Dès qu'on se situe dans la perspective un peu élégiaque dont tu parles, dès qu'on a l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus de lecteurs, que la grande tradition s'est évanouie. Je vois que tu l'as pas dépassé, mais tu as réfléchi à partir de cette impasse-là. Et ce qui me frappe, en fait, tant dans les extraits que tu nous as lus que dans ce que tu nous as dit, c'est la question du sens puis de l'expérience. C'est un peu comme si le rapport à l'expérience avait été évacué là, dans ces fameuses dissertations qu'on nous oblige à écrire au collégial. C'est comme si la littérature, donc, ne servait plus la vie. Puis c'est un peu aussi à ce constat-là qu'on arrive certains des penseurs français qui donnent dans l'élégie. Todorov, notamment, dans son livre « L'adieu à la littérature ». Donc, je ne sais pas si... Bon, là, c'est un peu... c'est une grosse question, là, j'en suis consciente, mais je ne sais pas si... si si tu avais voulu vraiment investir cette idée-là là, d'un rapport à l'expérience, d'un retour du sens, d'un...
Ben, ça concerne peut-être seulement mon projet, mais parce que je me suis astreint à ce que ce narrateur-là, ben, c'est pas un narrateur, je sais pas ce que c'est, mais que cette fille-là soit une passe ses nuits à taper. La question de l'expérience, tu sais, c'est par défaut, tu sais, ça peut pas être une expérience de quotidien, de rencontre immédiate. T'sais, cette fille-là, je sais pas si elle a des amis ou si elle en a pas. La question m'importe peu. Ben, elle m'importe des fois, mais si je vais pas raconter une amitié, je vais pas raconter non plus les rapports familiaux qui sont qui sont dans mes moments de grande détresse, qui me semble être le seul sujet du roman, tu sais. Ben moi, même moi, dans mon rapport au quotidien, la question de la famille ou des relations immédiates se pose de moins en moins. Tu sais, j'ai une vie à l'écrit qui est très riche puis intéressante. C'est sûr que je fréquente aussi beaucoup les lancements puis les lieux publics de la littérature. Pas aussi parce que j'aime ça, mais aussi un petit peu parce que pour mon le sujet de comme sujet d'ethnographie. Mais cette question-là de l'expérience propre au roman classique balzacien d'intrigue, je le vis même pas au quotidien. Quand je raconte quelque chose, c'est fragmenté, puis je vais pas dire, ah, je suis né blablabla, puis j'ai fait ça. C'est comme, ah, il m'est arrivé tel truc drôle, puis je vais le raconter parce que c'est drôle, je vais le raconter parce qu'il y a une espèce de sens à aller chercher. Mais bon, quand je raconte dans mon quotidien des choses qui ont rapport à mon existence, je pense pas que j'arrive à rendre le sens de mon existence. Je suis perdu dans ma tête.
La question avec le réel, finalement, que tu ramènes en parlant justement des nouveaux modes de lecture, mm-hmm. Qui me semblait tout de même assez présent, mais justement dans tes fragments.
Oui, peut-être le réel. Mais c'est un réel intéressant, le réel de l'intégralité du savoir. Je pense que ça fait partie du réel aussi. C'est une espèce de réel qui est plus intellectuel, mais qui informe tellement notre expérience. Je ne suis pas beaucoup... je suis pas un auteur de l'expérience immédiate, là. Je pense pas que ça... J'arriverai pas à la rendre.
Vous avez sûrement des questions.
Moi, c'est une question, mais j'avais beaucoup l'idée de comment continuer à écrire devant tout le fratras, devant toute l'intégralité de ce qui s'écrit. Puis je voyais comme ça fait qu'il passe ses nuits à essayer de se chercher un peu une filiation, dans le fond. Sauf que c'est comme s'il n'y avait plus de catégorie déterminée, comme dans le fond, avant, on disait qu'est-ce qui était bon d'avoir lu, c'était quoi les grands modèles. Tandis que maintenant, tout est confondu dans l'Internet, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon. Il y a tellement de textes partout qu'il faudrait comme qu'elle passe ses nuits au complet à toutes les écrits pour tomber sur comme tellement de choses inutiles puis qui mènent à rien pour trouver quelque chose de bon. Mais comme si elle ne pouvait pas commencer à écrire tant qu'elle n'avait pas tout lu ce qu'elle avait à consommer. Qu'on dit qu'il faut lire pour pouvoir écrire ensuite, puis qu'elle se perdait un peu dans la banalité puis dans le foisonnement de tout ce qu'il y a.
Mais peut-être que la question n'est pas tant de se demander qu'est-ce qui est bon ou comment se construire un espace esthétique, ce qui est une question que je me pose au quotidien beaucoup plus dans mon activité de critique. Mais ce que je trouve intéressant dans des espèces de périodes comme ça où on est dans une espèce, on est tellement dans une espèce de j'ai l'impression, alors je veux pas avoir l'air d'une espèce d'illuminé, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une espèce de changement de paradigme. Puis ce qui est intéressant dans ces périodes-là, c'est que pendant un bref instant, c'est comme si on avait accès au chaos du réel lui-même. On avait plus les structures qui nous permettent de faire d'opérer des jugements de goût, des jugements moraux, puis tout d'un coup, pff, le réel nous apparaît pendant un bref instant pour se refermer presque immédiatement, parce qu'on reconstruit immédiatement des catégories, on reconstruit des moyens justement de recloisonner ce réel-là pour le parce que la perspective de, je sais pas, c'est peut-être trop bataillé, mais tu sais, la perspective d'être confronté à l'intégralité du réel est beaucoup plus effrayante que rassurante. Puis on est, justement, c'est peut-être la question de l'expérience, une expérience qui serait pas enrichissante, mais beaucoup plus une expérience de dépossession de soi. Tu t'amènes à une espèce d'éclatement. Cet éclatement-là, c'est ça, comme je disais, je fais pas dans la morale, je fais plutôt dans la ce qui m'intéresse, c'est les affects qui sont rattachés à ça. C'est quand même pas une expérience qui est désagréable non plus, l'espèce de buzz de sentir à un moment donné que vous, t'as accès à tout. Tu sais, la première fois que tu tombes sur... je sais pas, sur Wikisource, où il y a tous ces livres-là qui sont libres de droit de toute l'histoire de la littérature, tu te dis « My God, j'ai accès à tout. J'ai même pas assez d'une vie pour tout lire ce qui est disponible. » C'est quand même une espèce de sentiment de... Comme quand t'es... comme là, j'ai un reste de rhume, mais comme quand t'es congestionné pour un coup de Ventolin, puis là... tout est... ça... Des poumons, comme t'as l'impression qu'ils ont trois fois leur taille. C'est rien que de la... c'est la drogue. Mais je sais pas si ça amène quelque chose, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est intéressant à travailler comme matériau littéraire. En fait, c'est ça mon grand... une des questions que je me pose en littérature, c'est... J'essaie de trouver des espèces de moments comme ça qui sont très dramatiques, très désespérés, mais en même temps, ce qui surgit, c'est des espèces de grandes phrases qui sont... exaltées, puis qui sont... Pour moi, c'est souvent... pas le plus souvent, mais c'est souvent joyeux, comme c'est les textes que je fais, ce que peu de gens sont d'accord avec moi, mais j'essaie de rendre ça, cette joie-là, sans y arriver, parce que ça fait toujours que j'ai l'espèce de sujet, comme tombeau, catastrophe, mais j'y travaille, peut-être mon prochain livre est joyeux, mais c'est ça le rapport au à pas savoir, à être confronté à tout, c'est ça que ça peut donner, une espèce de... J'aime l'intensité que ça nous procure quand on est devant ce genre de chaos-là. Je cherche peut-être ça, des perspectives de chaos. J'ai
l'impression qu'il y avait un peu des deux chez ton personnage, de forme de transport vers une sorte de fin de la littérature qu'elle ressentait, étant donné qu'il y a comme une possibilité de visibilité qui est donnée à tout le monde. Elle a dit, il y a tellement de gens qui parlent, je serais peut-être mieux de me taire. Puis étant donné que maintenant tout le monde a une éducation, tout le monde est capable d'écrire, mais tout le monde n'a peut-être pas quelque chose à dire, donc elle aimerait mieux se taire. Puis en même temps, la façon dont tu reprends tout ce matériel-là, comme vraiment banal, qu'on trouve sur Internet, puis que tu lui donnes comme un point de vue critique, puis tu as un regard vraiment serré, ça donne comme un deuxième regard et une énergie dans le fond.
De faire rire,
de me réfléchir, puis c'était
énergisant. Ben,
merci.
Mais par rapport à la question de l'intégralité, la somme qui est effrayante, qui est effrayante, je me demandais si ta fascination pour les poètes dans les fameuses soirées de poésie, de culture, tout ça, c'était pas justement un contrepoids à cette peur des sommes effarantes, parce que les poètes seraient comme les poètes de mauvaise poésie, là, entre guillemets, seraient des espèces de figures de quelque chose qui s'extrait de ces sommes-là. C'est-à-dire que les poètes arrivent avec leurs petites doutes minuscules, peut-être un peu insignifiant, hyper naïf, et que c'était peut-être une fascination complémentaire. Il y avait tout qui te fascine, mais aussi il y a presque rien qui serait en situé en marge.
Oui, peut-être, mais il y a peut-être dans la mauvaise poésie aussi une espèce de manière de travailler une autre manière de travailler la perspective de la la fin du sujet qui s'écrit, mais d'un point de vue parodique, d'un point de vue de l'épanchement du moi, y a-t-il quelque chose de plus parodique que ça? Puis la perspective inverse, de la dépossession de soi devant l'intégralité de l'écrit, je trouve que c'est plus complémentaire. Peut-être que je devrais donner plus de chance à ce j'aime moi des à ces poètes là qui sont justement pas dans la mauvaise poésie. Mais c'est aussi la question que je me pose, est-ce que c'est la, peut-être qu'il y a pas une fin de la littérature, mais peut-être qu'il y a une fin d'une époque de l'expérience comme expérience subjective du pas centrée sur le moi, mais c'est une expérience subjective positive. Je me pose beaucoup la question à chaque fois que je lis, pas expressément, mais c'est un sujet de ma thèse aussi. Le retour du lyrisme se fait dans une époque qui, après une époque formelle ou une époque de l'expérience du langage qui a tellement tout détruit de la possibilité même du sujet que quand on arrive au retour du lyrisme, quand on comme c'est les Français des années 90 dont font partie Maupois puis Rabaté, puis dans une certaine mesure Jean-Claude Pinson, quand ils se réclament de nouveau du lyrisme, ils peuvent seulement le faire du point de vue d'un espoir ou d'une croyance. T'sais. Je choisis de croire au sujet parce que c'est impossible de l'affirmer aussi pleinement qu'il s'est déjà exprimé. C'est un... Peut-être la question de la mauvaise poésie est complémentaire à ça.
Tu l'associes directement au lyrisme, la mauvaise poésie?
Ben le lyrisme positif se bat contre ça. Il y a constamment des espèces d'énoncés comme « Non, le lyrisme n'est pas l'épanchement du moi, n'est pas le sujet centré sur lui-même. » Puis en même temps, ils ont beaucoup de ces auteurs-là français ont beaucoup de difficultés à être ailleurs qu'en marge de ces énoncés-là. Ils sont pas ailleurs, ils n'ont pas réinventé, ils sont dans le retour, justement. Ce retour-là, c'est aussi une répétition, c'est aussi une manière d'écrire comme si on n'était pas là. C'était le sujet de ma thèse.
Est-ce que c'est pas un retranchement rêvé, justement, et du sujet et du monde dans ce cas-là? Est-ce que le retranchement, c'est une question qui t'intéresse?
J'ai de la misère à la saisir, cette question-là. Je suis plutôt dans une espèce de... C'est dans une espèce d'esthétique de la fuite en avant plutôt que dans le recul, là. Puis le rapport à la genre, quand tu parlais de filiation, tu sais, le rapport à la filiation se fait beaucoup comme une espèce de tu sais, je saisis des morceaux de... Bien, cette fille-là saisit des morceaux de poésie, des citations, comme si elle est en train pas de s'effondrer, mais d'essayer de se raccrocher à des choses. Est-ce que c'est désespéré? Moi, je trouve que c'est un des moments les plus joyeux quand j'arrive quand je débouche sur une clairière Saint-Denis-Garneau ou une clairière Denis Vanier. Je trouve ça merveilleux dans cette espèce de fatras-là. Je trouve que c'est une manière de pas penser le passer plutôt la fuite en avant que le retranchement. Peut-être que je devrais plus prendre des moments de repos.
Ça fait sens ce que tu as dit en fait sur l'idée de changement de paradigme. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, en fait, je pense que l'aspect de média influence forcément l'expérience de lecture. Et puis je me disais aussi que finalement la déception que tu as par rapport aux essais sur la mort de la littérature et qu'on peut ressentir, c'est peut-être aussi que ces gens qui écrivent ça n'ont pas les critères pour décoder ce qui est en train de se passer. Donc là, on serait plus dans une phase, on regrette que ce soit pas comme avant, mais on ne perçoit pas ce qui peut être mieux puisqu'on est démuni, on n'est pas capable d'analyser ça. Et du coup, je me disais, le fait qu'on soit aussi confronté à toute cette intégralité du réel, est-ce qu'une
une part importante de la transmission, ça pourrait pas être quand même de la capacité à donner aux plus jeunes, la capacité à faire des choix, justement. C'est ça qui devient important. Ça va être les outils pour choisir dans cette masse de choses, essayer de se repérer un petit peu. Une partie de la transmission, ça pourrait pas être, c'est ça, peut-être de donner, d'aider les gens dans cette masse de choses.
Mais...
le choix de devenir... c'est capital, quoi. On a une totalité...
Mais dans la cette question-là, concernant précisément ces essais-là, je trouve que la question de, pas de transfert intergénérationnel, mais il y a une espèce de chose qui se produit pas. Du strict point de vue littéraire, il me semble que c'est primordial, quand on fait un portrait comme ça de l'actualité, de s'intéresser juste du point de vue littéraire, pas du point de vue de la lecture non littéraire, mais de s'intéresser à toutes ces petites manifestations. C'est peut-être ça l'espèce de retranchement dans la littérature. Il y a quand même des choses qui se passent partout. C'est peut-être pas comme des grandes choses, mais il y a quand même des auteurs, des petites maisons d'édition, toutes sortes de petites choses. Puis Le parallèlement à ce projet-là, qui est très, très cru dans son rapport à la littérature, je me suis mis à donner des prix littéraires à chaque année sur mon blog. J'ai fondé une académie où on donne 15-20 prix à des œuvres ou des événements ou des choses qui se sont passées dans la littérature québécoise durant l'année. Puis au début, c'était un petit peu une boutade la première année, puis ça devient à chaque année de plus en plus important. Puis important, pas pour les gens, mais pour moi, tu sais, de lire ce qui se fait, puis de me dire « Ah, tu sais, je me sens pas dans un désert. » J'essaie de trouver des gens avec qui j'ai des affinités esthétiques, puis en cherchant, j'en trouve, tu sais. Puis un portrait de la littérature devrait toujours, même si c'est par des gens qui sont comme, je sais pas, des gens vieux comme Todorov, devrait au moins s'intéresser à ça, puis pas seulement s'intéresser à ce qu'on entend dans les médias, dans le Figaro littéraire, les rentrées qui sont absolument inintéressantes. Tant qu'à moi, j'essaie d'en lire de ces choses-là, mais c'est d'une banalité plate, là. Comme du point de vue de la forme, puis il n'y a jamais de prix de poésie, puis jamais de trucs un petit peu hors de l'ordinaire, qui sont pourtant, pour moi, ce qui est en train de se passer. Puis là, c'est ça, je parle même pas des nouvelles technologies, puis tout ça, là. C'est du point de vue le plus responsable devrait être celui qui, si on parle de l'actualité, faudrait s'y intéresser. C'est un petit peu navrant à chaque fois. Je parle avec des gens qui sont dans les jurys, puis ils connaissent pas des prix de poésie, puis il y a des maisons de poésie qui connaissent pas, qui ont pourtant sorti des choses qui mériteraient d'être en nomination. Puis c'est... Oh, je vais écrire d'autres extraits sur les prix littéraires.
On a lu des essais que tu as écrits, on a lu Critique Cowboy Cynique.
Oui, ça fait longtemps.
On a lu aussi La Catharsis du siècle, Déclin de la classe moyenne. Mais je trouve que Critique Cowboy Cynique, dans le cadre en tout cas du séminaire qui porte sur les héritages détournés, sur la transmission, enfin, c'est une lecture qui nous aide à répondre à nos questions, mais qui certainement nourrit nos réflexions. Puis tu réfléchis beaucoup, je sais pas si...
Je m'en souviens pas beaucoup.
Mais tu parles beaucoup de la distance critique, en quelque sorte, et de cet espace clandestin que ta génération aurait peut-être réussi à construire ou réussira peut-être à transmettre là, à ceux qui viendront. Puis je sais pas, dans ce que tu viens de dire, j'entends un peu ça... cette espèce de nécessité, donc, de penser les choses à partir de des marges, en dehors en dehors des lieux officiels de transmission de la littérature ou du savoir, mais pas dans une perspective non plus pure révolte là, ou de rupture ou de tabula rasa. Mm. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, justement, cette notion de distance, si c'est encore aussi, bon, un peu d'actualité dans ta réflexion et dans tes recherches.
Ben, ça, oui, ça reste totalement d'actualité. Je me suis jamais senti aussi bien que quand j'ai réalisé que ma place n'était pas à l'université ou dans les institutions, mais en marge, puis pas ailleurs. Tu sais, je suis pas du tout un partisan pour en finir avec l'université, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'université permet l'existence d'une marge de petites communautés qui sont beaucoup plus vivantes que ce qui peut se passer à l'intérieur de l'université. C'est du point de vue de la formation. J'ai étudié 10 ans ici. Ici, puis ça a été une des plus belles années de ma vie, mais en même temps, je savais que je pourrais pas être prof parce que j'ai pas la tête formée pour les projets de recherche, les demandes de subventions, puis la direction d'étudiants, mais c'est même pas dans une perspective personnelle, c'est aussi l'espèce de je me suis senti chez moi quand je me suis rendu compte que c'était en marge puis pas ailleurs, qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire. Puis justement, une chose vraiment conne comme sur mon blog, me mettre à donner des prix littéraires qui... Sans qu'on ait de subvention, on est trois à faire ça, puis on organise un gala, puis on fait des trophées. Puis, mais j'ai fait des cartes, j'aurais dû les amener, mais des cartes d'auteur, comme des cartes de sport, mais d'auteur. Mais c'est des moyens peut-être dérisoires, mais qui permettent de faire... À ma connaissance, il n'y a pas d'autres personnes d'autres qui ont fait un portrait de l'année littéraire 2010... ailleurs que dans les journaux, qui était justement une espèce de résumé de ce qui s'est passé dans les rentrées littéraires d'automne puis d'hiver. Puis, je sais pas, si plus de gens pouvaient faire ça, on serait moins important à l'académie, puis on serait vraiment content. Parce que c'est la... Oui, il y a plusieurs années... Ben, dans les années 90, j'étais... quand je suis arrivé à Montréal... Je m'intéressais au milieu littéraire, mais il se passait vraiment pas grand-chose, puis c'est même pas une espèce de jugement de valeur. En discutant avec les gens, je pense que les gens qui étaient à ce moment-là dans le milieu littéraire peuvent le confirmer. Les soirées de lecture, c'était vraiment ennuyeux, puis il y en avait pas beaucoup, puis des espèces c'était vraiment une espèce d'époque où la notion de professionnalisme ou de professionnalisation de l'écrivain était très forte. Puis maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans une espèce de dynamique de on gagnera jamais notre vie avec ça, fait qu'autant se faire, faire ce qu'on veut. Puis il y a beaucoup de gens, c'est comme je parlais au début, même s'il y a un moment optimiste et un moment négatif, pessimiste, je suis parallèlement aussi. Un n'est pas le démenti de l'autre. Il y a encore une belle. Je trouve qu'on est quand même dans une belle époque qui est. Qui est une belle époque pour cette vie littéraire-là, mais c'est quand même une époque qui n'est pas payante puis sans visibilité médiatique, mais il y a des belles choses qui se passent. Je vous irai voir sur mon blog.
D'autres questions, informations?
Le fait d'être peut-être dans un espace un peu à part, comme en marge, est-ce que par l'expérience, ça laisse pas aussi plus de liberté aux créateurs?
Ouais, il y a plus de liberté, mais je pense que c'est... Il y a un... La chose qui est triste, c'est que les gens tiennent pas cette position-là très longtemps. Il y a un gros... c'est difficile d'avoir du temps pour écrire, puis quand il n'y a pas de possibilité de se professionnaliser, ça devient difficile sur le long terme de continuer à faire ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la poésie pour faire des romans jeunesse, qui sont... puis petit à petit, ils abandonnent... ils abandonnent leur projet qu'ils avaient commencé à élaborer. Puis quand il y a, ce qui est difficile aussi, c'est d'avoir un vrai échange. C'est pas on sort puis on a du fun puis on boit la bière puis on rentre à 3 heures du matin là. C'est des discussions sur la démarche, puis une espèce d'exigence de justement, tu fais une lecture, tu lis pas ce que t'as lu tu lis pas ce que t'as écrit l'après-midi là. Ça, c'est difficile quand il n'y a pas de... Cette liberté-là se paye aussi de toutes sortes de manières par une espèce d'impermanence ou d'un... je suis vraiment pas au point de croire que la seule bonne littérature va se faire en marge de l'université. Il y a moyen de... Puis que toute littérature en marge de pas juste l'université, mais des institutions est de qualité, là, loin de là. Mais c'est un... C'est très... Une chose qui est difficile à... que je trouve difficile à mesurer, c'est combien de gens sont vraiment engagés dans ce qu'ils font. T'sais, engagés dans une espèce de perspective plus esthétique que c'est le fun de faire, de participer au monde littéraire. C'est très difficile à mesurer. Puis j'ai un... On se méfie de tout le monde.
Justement,
oui. Oui, je trouve que depuis pas très longtemps, je trouve qu'il y a plus d'échanges, puis il y a des réflexions qui émergent. Là. Par exemple, de ces derniers mois, il y a eu au moins trois auteurs qui ont des blogs qui se sont mis à réfléchir justement sur est-ce qu'un écrivain devrait penser à gagner sa vie avec ce qu'il fait. C'est une question qui est de l'ordre de l'activité qui vient de ton activité de littéraire. Puis les échanges qu'ils ont eu là-dessus étaient super intéressants. Puis je pense qu'il y a quelques années, c'était pas possible, à moins qu'un magazine fasse une enquête là-dessus. Et puis là, c'était spontané. C'est des gens qui sont justement dans une période où on est dans une période où il y a tellement peu de choses qui sont certaines quant à l'avenir, positivement ou négativement, que... des gens qui n'auraient peut-être pas réfléchi là-dessus se mettent soudainement à avoir un point de vue étoffé ou non, mais il y a une espèce de petite vie intellectuelle comme ça qui est pas très courante sur les blogs, les forums, sur les systèmes de commentaires, mais qui est là quand même. Je trouve ça... Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir émerger ça, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appelé depuis longtemps, puis j'essaie de m'enthousiasmer sur la qualité des échanges.
C'est un peu le propos de la catharsis du siècle, cette réflexion sur l'artiste et sa propre comptabilité.
Oui. D'ailleurs, pour ça, je me suis mis à faire des t-shirts que je vais vendre bientôt pour... financer mes activités de blogueur. Je suis très sérieux, c'est un... L'écrivain entrepreneur est né. À force de refus de bourse du Conseil des arts, je vais finir par m'en sortir.
Intéressant, mais paradoxal que ta réflexion soit beaucoup sur la récupération de stéréotypes, de clichés, de phrases, de paroles, de chansons, puis justement une espèce d'ouverture du littéraire sur l'entièreté des textes, peut-être même du disciple. Puis il y a quelque chose dans ton personnage qui écrit de cette récupération-là. Puis il y a une question que tu poses qui est celle de la place de la littérature dans la société, mais ton personnage parle à son ordinateur dans un projet clos et non pas dans un acte de communication comme un courriel, un texto, une lettre. Alors je me demandais, par rapport à ton texte à toi, à qui tu t'adresses, à qui, pour qui penses-tu que tu écris? Qui est un peu la question aussi, pour qui ton personnage pense qu'il écrit?
Ben, je pense qu'elle écrit pour essayer de pas se comprendre ce qui est en train de lui arriver. c'est pas très dialogique, mon, mon esthétique. Mais c'est vrai que c'est une... la question que je me pose en rebond à la tienne, c'est justement, tu sais, je suis allé dans... Je vais dans tous ces lancements, puis dans tous ces... Dans toute cette, j'ai toute une activité mondaine qui est pas... dont mon projet tient pas compte, tu sais, c'est... Mais la manière de faire le monologue, comme je le fais, rend très difficile l'intégration. Ça m'intéresse pas de faire je fuis tous les... C'est peut-être... Je sais pas pourquoi, mais je fuis comme tous ce qui pourrait s'apparenter à du romanesque. Tu sais, je veux pas nommer les gens. Je veux pas que cette fille-là ait des relations. Je suis jaloux, mais je veux pas qu'elle ait un univers social ou un univers tangible sur lequel on pourrait se raccrocher. C'est une espèce de... Je travaille... j'essaie de faire en sorte qu'elle soit plus de l'ordre de l'allégorie. Tu sais, c'est une espèce de... À travers... un petit peu intangible comme voix, puis à travers ça, ça lui permet d'être aussi impersonnel puis de parler au nom de quelque chose puis pas au nom d'une personne. Mais j'ai le démenti totalement là quand elle raconte des trucs de cégep, là, de cégep en arts et lettres. Mais je le prends comme une espèce de parcours qui est assez commun. Mais oui, la question est vraiment intéressante de pourquoi est-ce que il n'y a pas plus d'échange. On va mettre une note là-dessus. On fait un post-it.
C'est que je me dis, parce qu'en fait, j'ai une question qui est très d'actualité pour moi aussi, mais c'est qu'à partir du moment où tu utilises, admettons, la rhétorique harmonium, c'est un indice sur ce qu'elle écoute.
Ouais.
Donc, c'est nécessairement...
Ouais.
Mais c'est nécessairement social, c'est toujours...
Ouais, ouais.
C'est drôle de dire que toutes ces relations à des produits culturels peuvent passer dans le texte, mais pas ces relations à des gens,
mais c'est parce que je pense qu'il y en existe déjà comme des livres où on raconte la vie immédiate de gens du milieu littéraire.
OK, mais c'est intéressant parce que c'est comme une façon de dire qu'il y a encore des zones à explorer dans le littéraire, dans le sens qu'il y a dans le cadre d'un projet qui s'appellerait littéraire,
que cette zone-là n'a pas été explorée. Ouais. Mais c'est parce que c'est aussi la raison pour... Ben, pas la raison, mais quand j'ai fait album de finissant, ce qui m'intéressait, c'était pas comme de faire un roman jeunesse ou un roman de « Ah, c'est comme ça le secondaire, les amis, les casiers, puis... » Tu sais, les deux... Ce qui m'intéressait, c'est que genre « Hey, t'écoutes les émissions, genre Virginie, puis Watatata, puis tu les vois jamais en train de faire leurs devoirs, tu sais. » Puis pourtant, quand j'étais au secondaire, c'est tout ce que je faisais, des devoirs. Fait que là, je me suis dit, ah, ça serait drôle comme de faire un livre où ce serait juste comme quelqu'un qui est assis en train d'écouter d'un cours, en train... je passais pas ma vie à faire les devoirs, ça, c'était au cégep, mais c'était... Je passais ma vie à être, tu sais, dans le cours. Qu'est-ce qui se passe quand t'es dans le cours puis tu fais rien? C'est, du point de vue audiovisuel, c'est inintéressant, puis c'est pour ça que la télé le montre jamais ou le cinéma le montre jamais, des gens en train d'écrire ou en train de prendre des notes, en train d'écouter un cours. Pour vue d'ici, c'était les gens en train d'écouter la télé, tu sais, comme un plan fixe sur quelqu'un qui écoute la télé, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai la même question. J'ai genre, je passe mes journées, c'est vraiment plate de regarder quelqu'un en train d'être sur Internet, tu sais, ou en train de taper, c'est immobile, puis il y a même zéro, tu sais, il y a des... Jeff Wall, il a fait ça pour des photos de gens en train d'écouter des films, des photos de gens en train de travailler, puis j'ai vu ça il y a pas longtemps, des gens en train d'être sur Internet, tu sais. Le visage est immobile, inexpressif, tu sais. Même si c'est comme des... T'es en train d'écrire full lol, tu sais. Mais t'es comme... Hey, lol. Mais en dedans, t'es vraiment comme... Ah, oh, c'est malade! Mais tu sais, comme t'es tout seul devant ton ordinateur, tu fais comme... sans expression. Puis je trouve que c'est un moment de réel dont on traite pas. Puis je trouve que... je pense que peut-être la littérature... c'est une puissance de la littérature sur l'audiovisuel d'arriver à faire ça, à décrire ou l'expérience des moments d'introspection. Tu sais, ça, c'est un truc que j'aime faire. Tu sais, trouver ce moment-là qui est sans image intéressante. C'est sûr qu'il est intéressant, la vie de la, la, ma vie par écrit est beaucoup plus intense probablement que ma vie au quotidien. Là. Je n'ai pas que des moments d'explosion de joie, mais quand j'écris, je peux mettre des points d'exclamation. Une petite niaiserie par-ci. Je suis peut-être plus naturel à l'écrit qu'en personne. J'ai peu de spontanéité quand je suis mal à l'aise. Comme maintenant. Quand il n'y a pas de questions.
Il y a cette phrase-là, je ne sais même pas ce qu'on pourrait en faire, mais elle m'a frappée. Ben, c'est une question, est-ce que je suis en train? Tu sais, tu parlais justement de la fuite en avant, puis de cette espèce de figure là, de spectateur ventriloque. Je ne sais pas, j'avais l'impression que ça... Pas que ça non, c'est pas que ça résume, mais il y a là quelque chose qui témoigne un peu de ta pratique, là, ou de la forme même de tes textes, là.
Ouais, tu sais, c'est peut-être là que quand je parlais du troisième moment sur lequel je travaille, j'ai beaucoup de difficultés à arriver à trouver quelque chose de constant, mais en même temps, les textes viennent plus facilement qu'ils venaient avant, mais ils sont pas, ils ont pas encore de forme que je trouve intéressante ou de propos que je trouve intéressants, mais c'est peut-être ça qui, pour moi, sauve la qualité littéraire de ce que je suis en train de faire, c'est que c'est un... c'est qu'on peut faire le récit de la lecture non littéraire, un récit qui pourrait être littéraire si j'arrive à faire quelque chose avec ça. Mais c'est une des réflexions que j'essaie de pousser plus loin. Comment est-ce qu'on peut... prendre la lecture non littéraire comme matériau puis en faire quelque chose de littéraire, en faire une expérience du langage que seule la littérature pourrait arriver à rendre. Peut-être qu'une idée de l'expérience...
C'est un peu comme ça, l'expérience. Oui. En tout cas, plus comme ça que comme dans les romans de Balzac, là, je vais l'avouer, mais j'aurais peut-être dû dire affect, en fait, ou...
Oui, il y a les affects, mais il n'y a comme pas de...
Tu as quand même dit le mot expérience plusieurs fois, le mot affect. Ça m'a amené une sorte de... Ça m'a amené un peu aux formes concrètes de l'existence, hein. Même si ce n'est pas tout à fait...
C'est quand même une expérience intellectuelle, mais moi, j'ai une vie intellectuelle qui est beaucoup plus... qui me remplit plus que ma vie affective à certains moments. T'sais, on fait une espèce de séparation entre le vécu puis la pensée, mais moi, peut-être que je me suis jamais autant dévoilé que dans ma thèse ou ce genre de choses-là. Peut-être. L'introduction. En tout cas, pas les parties que j'ai enlevées. Qui en a dit pendant 50 pages une phrase de... Passons.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
J'ai une question par rapport au prix que vous donnez sur votre blog. Justement, vous dites que vous êtes comme en marge d'une institution, par exemple, universitaire. Mais en même temps, le fait de choisir de donner des prix, justement, avec tout cette côté officiel, c'est un peu s'inscrire dans les institutions. Non, comme de...
Ah, totalement. Mais on le fait un peu d'une manière ironique, mais à l'intérieur de cette ironie-là, il y a quand même aussi un fond de démarche sincère. Puis, du point de vue comme strictement esthétique, je trouve ça intéressant parce que, à mon sens, l'ironie, aujourd'hui, ça représente l'ironie. Tu sais, tu dis des niaiseries, mais il y a un petit fond de vérité. Puis, je pense qu'on fait la même chose. En marge, oui, on reproduit totalement. Une démarche institutionnelle sans tout à fait la parodie, mais ça se fait aussi sans... On est juste une espèce d'institution qui n'est pas sentencieuse et protocolaire, là. Puis qu'on n'a pas de subvention non plus, ce qui nous sauve de trop d'officialité. Mais ce qui est intéressant, c'est plus on le fait, plus il y a des espèces de jeux, de jeux d'institutions des jeux de pouvoir qui entrent en jeu. Il y a des gens qui sont fâchés de ne pas recevoir de prix ou des gens qui nous font de la flatterie pour essayer de nous influencer, tu sais. C'est tellement c'est à une échelle ridiculement microscopique, mais d'un point de vue comme sociologique, c'est super intéressant. C'est vraiment le pouvoir de la parole. T'sais, tu dis, je vais m'inscrire en disant telle chose, en produisant tel discours, puis à un moment donné, comme il y a une espèce de dynamique du discours qui s'installe à laquelle t'es plus témoin de cette dynamique-là que tu la contrôles, puis fait que on essaie de continuer de pas se prendre au sérieux, puis c'est amusant de continuer de pas se prendre au sérieux, parce que ça devient un effort à un moment donné, là, on a des débats houleux ou des... j'ai des choses à régler avec certains prix que j'ai donnés. C'était vraiment amusant. Je prends pas ça, si je prenais ça à cœur, aussi à cœur que ça, ça serait plus grave. Mais en fait, on prend ça à cœur, on lit les livres, puis maintenant, ce que je disais, comme j'ai fait des cartes, c'est parce que donner des prix littéraires, c'est pas facile, mais moi, ça m'intéresserait pas de recevoir un prix littéraire, j'aimerais mieux recevoir des critiques, tu sais, une critique qui me ferait sentir que quelqu'un m'a lu. C'est le problème de beaucoup de gens qui sont bardés de prix, mais ils se sentent profondément seuls. Puis, c'est ça qu'on essaie de faire avec les cartes. Je me suis dit, je vais pas juste donner des prix cette année, je vais leur faire chacun des 14 prix qu'on a donnés. J'ai fait une petite critique de 200 mots ou résumé d'expérience de lecture ou en quoi est-ce que ça, c'est intéressant. Puis à partir de là, c'est devenu plus sérieux donner des prix parce que c'est devenu... il a fallu que je m'implique moi-même, tu sais. Je ne vais pas donner un prix à quelqu'un juste parce qu'il était fin ou un prix parce que je le trouve niaiseux puis on va rire de lui, tu sais. Pas que je l'ai déjà fait, mais faut que je m'implique du point de vue théorique, comme l'expérience, je me dévoile plus quand je me théoriquement dans la pensée. Puis ça, en tout cas, je donne des prix comme j'aimerais en recevoir. Puis l'espèce de running gag, c'est justement parce que j'ai fondé l'académie pour me donner un prix parce que j'en recevais jamais. Puis là, finalement, comme il arrive toujours quelque chose qui fait que chaque année, je ne le reçois pas. J'ai l'intention de continuer ce running gag jusque dans la nuit des temps à venir.